19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, bienvenue, c'est parti, vous le savez, au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble tous les soirs, ici même, pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Vous le savez, plus que jamais, eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie infiniment. Effectivement, le standard, je dois le dire et je dois le reconnaître, tous les jours, il prend une forme différente et vous êtes nombreux à vouloir commenter l'actualité du moment. Allez, au sommaire de cette émission, au menu, ce que je vous propose. D'abord, nous irons en direction, vous savez, tout simplement, parler d'un événement à Champigny-sur-Marne avec le maire en personne, oui, qui viendra dans une poignée de secondes parler de son événement. Ensuite, les débatteurs influenceurs. Ils sont nombreux ce soir sur le plateau parce que ils ont décidé de confronter leur point de vue sur plusieurs sujets. Alors, le sujet qui brûle, en ce moment, il mérite une double clochette. Benzema, on peut pas le laisser tranquille, franchement. Clochette. Mister réalisateur. Non mais, sérieux, on n'a pas cherché d'autres moyens que de taper sur Benzema et le lien prétendu avec les frères musulmans. Franchement, si Karim Benzema a des liens avec les frères musulmans, ça saurait, je pense, quand même, entre nous. Clochette. Et ben, on parlera tout à l'heure avec les débatteurs influenceurs qui viendront confronter, parce que Karim Benzema, figurez-vous, il a le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Ça m'a surpris, non mais c'est vrai. Non mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui vient soutenir Karim Benzema. Bon, eh bien écoutez, on en parlera tout à l'heure. Peut-être que nos débatteurs auront un autre point de vue. Alerte à la bombe. Oui, plusieurs aéroports français ont été évacués aujourd'hui. Mais également aussi le château de Versailles, mais des musées. Bref, que faire? Est-ce que on n'est pas en train de sombrer dans une espèce de psychose? J'espère que non, les amis. Clochette. L'incertitude persistante avec ces images des dégâts causés par l'explosion. Je parle de l'hôpital à la bande sur la bande de Gaza. Oui, parce que figurez-vous, cette guerre Israël-Palestine, elle prend une tournure polémique sur polémique, mais surtout version contre version. On en parlera avec les débatteurs justement, qui viendront confronter leur point de vue. Le Quoi de Neuf, c'est avec Pascal Boniface, le géopolitologue, tout à l'heure, comme chaque jeudi soir, il viendra livrer son regard, son billet d'humeur, comme chaque jeudi. Et vous-même, vous êtes prioritaire au 01 53 48 3000. Quoi ? Le standard a déjà explosé ? Que se passe-t-il, faut-il ? Ah oui, je vois ça là, je vois le nombre d'appels, j'ai même pas dit, encore lancé, le générique de le sommaire de fin que vous avez déjà explosé le standard. Eh bien, vous le savez, vous êtes prioritaire. 01 53 48 3000, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec direction Champigny-sur-Marne, avec monsieur le maire, Laurent Jeanne. Bonjour, monsieur le maire.
Bonsoir, Adil Farkan.
Comment allez-vous?
Eh bien, écoutez, ça va bien. On s'apprête à un bel événement de solidarité, ça va bien.
Un événement de solidarité, effectivement, Beurre FM est aux côtés de cet événement de solidarité. Alors je dois reconnaître que l'événement s'intitule Couscous solidaire en soutien aux sinistrés du Maroc et de la Libye. Pourquoi vous avez décidé de lancer cet événement, mon cher Laurent Jeanne, monsieur le maire? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Écoutez, c'est une opération qu'on a prévue depuis déjà quelques semaines, à la suite des dramatiques incidents qui sont produits au Maroc puis ensuite au Libye, et donc ça nous semblait naturel d'avoir un événement solidaire pour accompagner et puis pour faire en sorte aussi que notamment toute la communauté marocaine qui existe à Champigny puisse participer. Alors, on a un peu moins de Libyens, mais la cause de la Libye nous semblait aussi naturelle au regard du drame qui s'est produit sur ce pays, et donc ça nous est apparu tout naturel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble peut-être un peu décalé par rapport aux événements, puisque l'actualité au fond balaye un petit peu les événements, mais ces catastrophes naturelles qui ont eu cours aussi bien au Maroc qu'en Libye ne doivent pas être oubliées, et je pense que c'est important de le rappeler et d'être aux côtés des populations qui ont quand même beaucoup souffert et qui n'ont pas fini de souffrir actuellement encore.
Vous avez raison, plus que jamais, il ne faut pas oublier les sinistrés. Et dites-moi, comme toujours d'ailleurs, c'est les femmes qui sont souvent derrière ce type d'événement. Le Couscous Solidaire, c'est une association de femmes que vous soutenez d'ailleurs et que vous accompagnez.
Oui, alors on a la chance d'avoir notamment sur Champigny une association qui est l'association des femmes relais. En fait, ce sont des femmes qui s'occupent un peu de toutes les autres femmes quand elles ont des difficultés, que ce soit sur des questions d'accès aux droits, de formalité administrative, d'accompagnement vers l'emploi. Enfin, différentes formes de soutien, et elles ont la chance d'avoir un réseau important. Et donc nous, c'est une association qu'on finance, qu'on épaule, qu'on appuie, qui est un véritable partenaire pour la commune de Champigny. Et donc...
Quel tournant, justement, quel esprit vous voulez lui donner, cet événement Couscous Solidaire?
Ah ben on veut déjà que les gens se retrouvent, parce que vous savez, en fait, ces deux drames qui ont eu lieu, les gens ont été un petit peu repliés sur eux-mêmes, ont pas forcément pu se retrouver pour parler de ce qui peut se passer dans la famille. La famille est partie et sur place, elle a été déplacée. On sera l'occasion d'avoir des temps d'échange, et puis d'avoir une récolte d'argent, hein, puisque chaque personne qui va venir consommer ce couscous qui est préparé par tout le monde, avec même les commerçants de la ville de Champigny qui ont apporté des vivres pour préparer ce couscous solidaire, eh bien, chacun apporte sa participation, et donc il y aura un don qui sera fait, notamment pour les associations qui sont sur place et qui ont besoin de fonds pour équiper.
Monsieur le maire, vous l'avez dit, pardon.
C'est aussi avoir ce temps avec les familles, et effectivement pouvoir être dans cette solidarité, et puis un temps un petit peu festif pour que les gens puissent partager, et partager aussi tout ce qu'ont ressenti les populations sur place.
Monsieur le maire, vous l'avez rappelé justement, les fonds iront en direction de qui précisément, à qui ça s'adresse, à quelle association, puisqu'il y a un tarif hein, pour s'inscrire, hein, on est d'accord, hein, pour participer à ce couscous solidaire.
Oui, tout à fait. Il y a un tarif qui est pas très élevé, hein, qui est de 7 euros, mais c'est une façon de contribuer. En fait, le repas ne revient à rien, au sens où c'est tout le monde qui a participé, notamment les commerçants de Champigny et la solidarité globale qui s'est organisée, et l'addition de l'ensemble des contributions. Chacun pourra mettre d'ailleurs ce qu'il veut. Certains mettront la somme minimale et d'autres en mettront certainement un peu plus. Mais tout ça ira notamment pour les associations. On a déjà voté d'ailleurs une délibération au dernier conseil municipal d'une aide de 5 000 euros pour aider notamment la Croix-Rouge avec ses différents représentants, et notamment le Croissant-Rouge, pour aider sur place au Maroc comme en Libye les populations qui en avaient le plus besoin.
Alors ça se passe où, monsieur le maire, et quand et à quelle heure précisément? On l'aura noté effectivement, l'importance de ce rendez-vous de couscous solidaire. On a compris l'enjeu effectivement. Alors est-ce que vous pouvez nous dire précisément ça se passe quand et où?
Alors ça se passe demain soir, à Champigny bien évidemment, donc c'est à la Maison pour tous Youri Gagarine, donc qui est un centre social au sein du quartier des Mordacs à Champigny, et donc c'est 6 avenue du 11 novembre 1918, et donc à partir de 19h-19h30 pour ce couscous solidaire, avec un temps d'échange et de partage, un peu de musique, un peu de convivialité pour que tout le monde se retrouve pour soutenir cette situation qui en a bien besoin, et donc on sera heureux de pouvoir accueillir tous ceux qui souhaitent participer. Il y aura un peu de danse berbère, on aura aussi la présence de quelqu'un qui a sa famille qui est sur place et qui nous donnera un témoignage avec les vidéos qui ont pu être reçues, et puis on aura aussi la visite du consul du Maroc, du consul adjoint qui sera présent pour cet événement. Voilà, je pense que c'est un événement qui va rassembler un peu de monde pour soutenir la situation au Maroc et en Libye.
Eh bien, on vous souhaite un beau succès concernant cet événement qui se tient demain à 19h. On l'aura compris, à la Maison pour tous, à Champigny-sur-Marne, monsieur le maire. Merci infiniment. Et puis demain, c'est noté pour le rendez-vous. Un bel événement, en tout cas bravo, effectivement, en soutien aux sinistrés du Maroc et de la Libye, monsieur Laurent Jeanne. Peut-être, qu'est-ce que vous vouliez, monsieur Rayed Chaibi?
Oui, je voudrais saluer, si vous me permettez, bonsoir aux auditeurs, je voudrais saluer Laurent Jeanne et surtout l'esprit de solidarité de monsieur le maire et de la ville de Champigny. Et je tenais absolument à intervenir parce que j'ai pu constater, moi, à quel point la ville de Champigny avait fait preuve qu'elle porte en elle la solidarité lorsqu'il y a eu la crise sanitaire de l'été 2021 en Tunisie, et la ville de Champigny-sur-Marne s'était tenue aux côtés de la Tunisie, était au rendez-vous. Donc je tiens à saluer cette initiative qui ne m'étonne pas.
Voilà, bravo monsieur le maire. Un débatteur, monsieur Rayed Chaibi, qui vous félicite.
Merci.
C'était pas prévu.
voilà, bah écoutez, on est ravis de, à chaque fois de pouvoir aider, en tout cas.
Oui. Merci monsieur le maire, merci monsieur Laurent Jeanne d'avoir été avec nous dans les informés sur BFM et bon courage pour demain et belle soirée d'événements demain, Couscous Solidaire. Allez, 01 53 48 3000, juste avant d'accueillir nos auditeurs, je vais juste présenter, vous savez quoi, le face-à-face et je vais aller accueillir David de Paris.
Les informés. Le face-à-face.
Gamal Abida, bonsoir, le porte-parole du MDC. Comment ça va?
Bonsoir, vous allez bien?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Marc Morandini? Vous êtes faillité ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Oh, pas avec lui, avec ses invités.
D'habitude avec Gamal.
On vous a pas reconnu, paraît-il.
Un petit peu tendu, ouais, mais on s'est démarré.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait avoir? Hein,
pas du tout, au contraire.
Pas du tout, au contraire.
Ah non, j'ai renversé la table.
Bon, on va en reparlera. C'est pas le lieu, mais bon. Raïd Chaibi, c'est le président de l'association franco-tunisienne, de la coopération franco-tunisienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Oh, monsieur Ibouba, journaliste, toujours la classe internationale. Deux costumes aujourd'hui, hein, la classe.
Ben voilà.
Hein.
C'est toujours ça.
La bogossitude, hein.
C'est à Beurre FM et c'est avec Adil Farkan.
Ouais, j'avoue. Ah. Comment ça va?
Très bien.
On est vraiment des clochards.
Ouais. Là. Non, pas du tout. Alors là, vous le
réservez.
Pas du tout.
Parle pour toi.
Malheureusement, que les costumes ne sont pas vus à l'antenne. Mais ce qui est dit et entendu.
Entendu, exactement.
Vous avez raison,
Ibouba. Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus. Comment ça va, monsieur le président?
Bonjour à tous.
Ça va?
Hyper speed avec les événements.
Vous aussi, vous en faites du direct en ce moment dans les médias?
Non, pas du tout.
Non, à peine.
Je tweete beaucoup.
J'ai vu.
BFM, ça fait un bout de temps.
Sud Radio, c'est raison là.
Il est très présent dans Sud Radio.
Sud Radio, franchement, comme Beurre FM, c'est une radio qui est ouverte à tous les Français, quelle que soit leur opinion, contrairement à beaucoup d'autres médias.
Ah, tu veux pas avoir mon adresse alors? Non,
c'est gentil. Allez, tiens, je vais accueillir David de Paris. Bonsoir, David.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole. C'est parti avec David de Paris. Bonsoir, David.
Oui, bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir.
On vous écoute, mon cher David. Quel est le sujet que vous voulez traiter ce soir?
Moi, je voulais parler du sujet parce que j'ai appelé hier.
Parlez bien devant votre cabinet parce qu'on vous entend de façon évidemment inaudible, si vous voulez bien.
Là, vous m'entendez mieux, là. Je disais, vous m'entendez?
Oui, très bien, c'est nettement mieux.
Je disais que je voulais parler de la Palestine. Hier, j'ai appelé, mais c'était trop tard.
Oui, c'était beaucoup, il y a beaucoup d'appels, hein. je vous cache pas qu'on est inondé en direct. Mais allez-y, je vous en prie, on vous écoute.
Je me dis comme du tout, le problème, c'est pas les Israéliens, le problème.
Oui.
Je pense que le problème de la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est eux qui doivent arrêter.
Oui.
Parce qu'il me semble que l'Angleterre.
Parlez bien devant votre combiné. Vous savez pourquoi? Parce que le son de votre voix est écrasé, étouffé, j'ai l'impression. Si vous voulez faire en sorte que, je ne sais pas, débrouillez-vous pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît, David.
Ok, d'accord.
C'est mieux, là. Oui.
Ok. Et je dis qu'en fait, c'est plus le problème. Pour moi, la faute revient plus à la France, l'Angleterre, l'Amérique, sur ce conflit-là. Ouais. Et pour moi, ce qu'il faudrait faire dans les pays arabes, ou même partout dans le monde, c'est fermer les ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis.
Pourquoi?
Parce que et eux protègent l'État raciste d'Israël.
Oui.
Vous savez, je vous dis un truc.
Oui, David.
Le con.
Il est à Gaza ou quoi?
J'entends pas, on n'entend pas très bien, mon cher David. Vous savez qu'on a beaucoup de soucis à vous entendre. On va essayer, vous savez quoi? On va essayer de résoudre ça avec vous parce que on a l'impression, David, que votre voix est écrasée par quelque chose. Je sais pas du tout, mais à l'antenne, on capte un mot sur trois. Essayez de faire en sorte, on va essayer d'arranger ça. On marque la première pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. 01 53 48 3000. J'ouvre l'antenne. Vous savez, il y a trois sujets. Benzema, Darmanin, le clash, la polémique. On parle aussi des alertes à la bombe qui se multiplient en France dans l'Hexagone. Nous parlons aussi d'Israël, Hamas avec, vous savez quoi, version controversion concernant l'explosion de l'hôpital à Gaza. On en parle avec nos débatteurs influenceurs, mais également vous aussi, au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h21, les informés, vous le savez, c'est avec Gamal Abina, avec Rayed Chaibi, Ibouba et enfin Nadir Kaya, pardonnez-moi. Pas mal d'auditeurs aussi, et j'aurai l'occasion d'accueillir Karine d'Argenteuil et Farid du 92 et Amadou de Grenoble. D'abord, je vous fais un tour de table parce que je voudrais quand même qu'on parle de cette explosion. On commence par ce sujet, l'incertitude persistante sur la cause de l'explosion, les amis débatteurs, des débatteurs influenceurs à l'hôpital de Gaza, Gamal Abina. Alors, que peut-on dire ? Chacun se renvoie, c'est quoi ? Version controversion, chacun se renvoie la balle, on en est où là ?
Il faut être très clair sur un point, qu'Israël refuse...
Je dis, on en est où sur la responsabilité drame ?
Oui, on s'entend bien. Qu'Israël refuse d'endosser cette responsabilité alors que depuis le début, ils disent aux Gazaouis, partez, parce qu'ils voulaient les dégager dans le Sinaï, et ils n'ont pas arrêté de les prévenir, quitter les hôpitaux, quitter les appartements, les maisons, ils ont dit ça de façon claire. Il y a eu un tweet qui a été envoyé et retiré, ça on le sait, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est moi...
Tweet de qui ?
De l'armée israélienne, d'accord, qui se vantait de pouvoir se venger. Le plus important, même le directeur d'hôpital était prévenu la veille, mais c'est pas le plus important. La seule chose qu'il faille retenir d'abord, ils nous ont fait le coup en Irak, hein, les boucliers humains, tout le baratin, on connaît la musique. Ce qu'il faut retenir, c'est la puissance de feu.
Il mérite une clochette.
Non, mais c'est la vérité. On massacre le peuple et après on dit c'est eux qui se tirent dessus. On la connaît celle-là. Les friendly fire, c'est bon, pas à nous. Ce qu'il faut retenir, une seule chose, et la logique, le reste m'intéresse même pas. D'abord, quel intérêt les Gazaouis auraient à se tirer dessus puisqu'ils sont déjà massacrés? Donc politiquement, ça rapporte rien. Ensuite, est-ce qu'ils sont débiles au point d'attaquer? Alors c'est pas compliqué, à Gaza c'est 12 km de large par 41 de long, d'accord, 42. La mer est derrière, pour trouver Israël c'est le côté. Donc c'est pas
42
très difficile.
Et 8.
C'est ça, et le côté, la mer derrière, Israël devant. Donc pour se repérer, ça va, ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire croire qu'il y aurait eu un tir qui aurait été détourné. Et quand bien même il aurait été détourné, l'impact de l'explosion est tellement monstrueux qu'on ne peut pas croire qu'ils aient cette technologie. Ils ne l'ont pas. Donc moi, je parle simplement de la logique. Comment ont-ils pu tuer autant de personnes? Alors maintenant, on dit en face, oui, c'est pas des centaines, c'est des dizaines, comme si c'est pas des êtres humains, mais on met ça de côté. Comment peut-on croire que les Gazaouis, qui n'ont jamais eu une telle puissance de frappe sur un tir, hein, je veux dire, ils ont des roquettes, mais ils n'ont pas une telle puissance, aient pu, chez eux, faire autant de dégâts? Je n'y crois pas.
Gamal n'y croit pas. Rayed Chaibi, qu'est-ce que vous dites, vous? Alors justement, avant d'accueillir Karine d'Argenteuil.
Oh bah, de toute façon, Gamal parlait du tweet qui avait été fait par l'armée israélienne et qui a été bizarrement ensuite retiré. Ça leur enlève évidemment toute crédibilité. Le seul moyen de connaître réellement la vérité, alors évidemment je vais passer pour un idéaliste, mais ça sera de mettre en place une commission internationale, une commission d'enquête internationale. Une commission d'enquête.
On en a besoin.
Une commission d'enquête internationale. Ça implique que des enquêteurs aillent sur place, fassent des expertises, relève éventuellement des preuves. Est-ce que il n'est pas déjà trop tard? Est-ce que
je peux intervenir,
probablement
là.
Il n'y a pas des traces qui ont été effacées? Donc je me pose réellement des questions, mais en tout cas il faut que toute la vérité soit faite et que toutes les responsabilités soient engagées dans cette affaire qui est quand même assez bizarre. Et surtout, encore une fois, comme l'a dit Gamal, ce sont des êtres humains, peu importe qu'ils soient dizaines ou une centaine, c'est un crime qui a été commis.
C'est l'objet des informés, allez-y.
Non, si je peux permettre, juste une observation. Israël n'a jamais accepté sur son territoire l'intervention de l'ONU ou de représentants de quelques pays que ce soit. Preuve en est, dernièrement, les États-Unis, juste avant d'arriver avec leurs deux porte-avions, ont demandé la présence de soldats américains pour pouvoir les soutenir. Israël a refusé. Vous savez pourquoi ? Ça fait 40 ans qu'ils massacrent les droits internationaux. Ils n'en ont rien à faire. Ils ont 50 résolutions sur le dos. Je rappelle que l'Irak, c'est une résolution pour envahir. À l'arrivée, c'est 3 millions d'Irakiens et de musulmans dans la région qui sont morts. Il ne faut pas être naïf. J'ai dit utopiste, hein, sans te manquer de respect. Hein. Idéaliste, il faut bien l'être parfois. Utopiste, il ne faut pas l'être par rapport à la situation. À un moment donné, c'est comme l'information. On peut réagir avec de l'émotion. Globalement, à 99%, tout le monde réagit avec de l'émotion. Oui. Mais aujourd'hui, il faut se rappeler que les journalistes français eux-mêmes n'osent pas se positionner pour Israël ou pour les Palestiniens, parce qu'en termes d'information, ils savent très bien que c'est le flou total. Ils savent très bien qu'Israël, ils sont spécialistes aussi en désinformation. Et puis, il peut arriver tout simplement que le missile soit tombé malheureusement sur le parking, pas sur l'hôpital, parce qu'officiellement, c'est le parking qui a été touché. Oui. Mais paradoxalement, quand on regarde bien un peu la stratégie de communication des Israéliens, ils expliquaient il n'y a pas très longtemps, je vous rappelle, le 7 octobre, que le Hamas était capable d'avoir une technologie en termes de missile hyper performant. Et là, ils nous disent non, c'est une petite roquette qui est tombée. Donc, Est-ce qu'ils ont un armement vraiment digne d'une armée, d'une résistance comme elle se doit, ou alors c'est encore simplement un bataillon de résistants avec des petites armes?
Je vous entends tous, mais sachez que Israéliens et Palestiniens continuent de se rejeter mutuellement la responsabilité de cette tragédie. Vous le savez, je vous l'apprends pas.
Et si je peux permettre de finir, Adil, on est encore sur les conséquences de la réalité d'un conflit qui dure depuis 1948 au minimum.
Et Bouba?
La guerre de communication.
Que ça.
En gros.
D'un
côté comme de l'autre. Je crois que là, c'est vraiment honteux. Mon problème aujourd'hui, moi, c'est que je me pose comme question, où va ce monde? Trop d'injustices, à mon avis, je crois qu'après, ça va péter un jour. Et c'est le monde qui va s'embraser. Et je crois qu'on va bientôt flirter avec
vous
ça.
Vous vous inquiétez, elle a dit. Donc,
il s'embrase déjà le monde.
C'est vrai, c'est
ce
que je vous dis.
Vous êtes arrivé avec des idées noires,
non? C'est pas des idées noires, c'est une réalité.
C'est avec un suicide.
Donc, autant parler d'une guerre mondiale, là, ce que vous êtes en train de dire. C'est ça qui est en train de nous étaler.
Ça se sent très bien. Monsieur, ce que je vous dis, c'est très clair. Parce que aujourd'hui. Quand vous voyez depuis, l'autre il dit depuis plus de 40 ans que...
Nadir Kaya.
Il dit 48 ans. L'autre, c'est pas grave. On va apprendre à se connaître.
Nadir Kaya. Votre collègue, Nadir Kaya.
Il n'y a pas de problème. De toute façon, donc, ça fait plus de 40 ans que ça dure cette affaire-là, plus de 50 ans d'ailleurs, que Israël est en train de faire la même chose. Donc, les Palestiniens qui répliquent de l'autre côté. Donc, voilà. C'est une division qui est là et qui ne dit pas son nom.
Attendez, il y a un élément fondamental que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire, là, en ce moment, cet embrasement, tout ça, cette explosion, tout ça, vont faire en sorte que on peut assister à des trucs de guerre mondiale.
Mais bien sûr, guerre mondiale, parce que ça, après, ça sert. Non, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a des puissances.
Je vous laisse le soin.
Je vous dirai juste ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes. Il y a plusieurs puissances qui sont mises en jeu. Vous comprenez? Trop d'injustices divisent. Trop d'injustices fait à réagir. Oui, oui. Et ça fait beaucoup d'optons que les Palestiniens sont en train de subir et que les Israéliens répliquent ou que les Palestiniens répliquent. Mais jusqu'où va? Donc en ce moment, nous sommes en train de vivre cette guerre de communication qui ne dit pas son nom, qui a dit vrai et qui n'a pas dit vrai. C'est un réel problème.
Gamal, oui. Avant d'accueillir Farid du 92.
Je vais vous attirer votre attention sur une chose essentielle. D'abord, les Palestiniens sont chez eux. Rappelons systématiquement qu'ils sont chez eux. Oui, il y en a qui veulent faire croire qu'ils ne sont pas chez eux. Ils
non,
ont
ils
toujours
sont
été.
Chez... Non, mais ah, bien sûr.
Non, mais je veux dire, il y en a qui font croire qu'ils sont pas chez eux, que c'est leur terre et tout le baratin, ils sont chez eux. Ceux qui sont arrivés après, c'est ce qu'on appelle les Israéliens. Deuxième chose, je vous rappelle trois dates intéressantes qui, sur un plan du calendrier, ont un sens. Il y a 25 ans après la création de l'État d'Israël, en 48, donc quand ils ont auto-proclamé leur État d'Israël en prenant une part considérable de la Palestine dès le démarrage.
Ils ont eu l'aval de l'ONU.
Non, l'ONU a dit qu'il faisait un plan de partage en deux États en 47.
Sur une carte, effectivement,
oui, plan de partage,
mais avec l'aval de l'ONU.
Oui, eux font...
Avec l'aval de l'ONU.
Oui, j'entends bien. 47, plan de partage. 48, déclaration de l'État d'Israël. 25 ans après, une guerre importante qu'ils perdent et pour laquelle l'Amérique les sauve, c'est celle de 73, la guerre du Kippour. 50 ans après, l'espoir, soi-disant, qu'on nous a proposé, c'était 93, quand il y a les accords d'Oslo qui démarrent. 25 ans supplémentaires après, donc on est à 75 ans plus tard, à nouveau une guerre qui rappelle celle de 73, 50 ans avant. C'est vous dire un peu le jeu des dates et ce côté vicieux d'un gouvernement. Il faut le rappeler systématiquement, ce que j'ai dit hier chez Mandine, on a parlé. C'est un gouvernement d'extrême droite qui dit que les Arabes sont des animaux. Il faut toujours le dire. La dernière fois que les êtres humains ont dit que d'autres êtres humains étaient des animaux, c'était les nazis, par rapport aux juifs et aux
Shimon Peres à gauche a aussi massacré les Palestiniens.
Oui, mais il disait pas animaux. Il disait quand même le respect de l'homme.
Les bombes étaient les mêmes. Je voudrais accueillir les auditeurs, s'il vous plaît.
Pardon pour les auditeurs, mais je voudrais réagir à ce qui a été dit. Alors, effectivement, sur savoir qui a tiré, qui n'a pas tiré, ça me fait mal au cœur de dire que je ne sais même pas si un jour on arrivera à connaître la vérité, parce qu'il y a eu cette guerre d'information. Mm-hmm. En tout cas, je pense qu'une commission indépendante pourrait, je l'espère, établir la vérité, mais j'en doute fort, vu les mensonges qu'il y a, surtout d'un côté du bord. Mais ce que je voudrais dire,
c'est vrai, également. Qui pour enquêter, ça me permet de pousser
un coup de gueule. C'est que tu disais à juste titre, Nadir, ça fait 75 ans que ça dure. Mais si ça dure depuis aussi longtemps, c'est que nous n'avons pas du côté du monde arabe, ou très peu, et ça s'est vu encore lors du dernier sommet de la Ligue arabe, des ministres des Affaires étrangères, où on a une partie qui prône l'équilibre, une autre qui affirme un soutien clair, d'autres qui tirent un peu les ficelles, etc.
Une désunion.
Je prêche pour une paroisse que je connais bien. La Tunisie, certainement avec l'Algérie, a été le seul pays qui a affiché clairement un soutien pour la cause palestinienne. Je suis, à titre personnel, un grand partisan de la paix. Mais il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et il ne y aura jamais de justice sans le retour aux droits fondamentaux des Palestiniens d'avoir un État souverain et indépendant. Et je me permets, si vous me le permettez, Adil, de rappeler, puisque le président Macron a vraisemblablement annoncé que lorsque le moment sera venu, il se rendra dans la région. Je voudrais juste rappeler, peut-être que c'est trop tard, mais je voudrais juste rappeler, je lui lance même un appel. Le 14 avril 2017, à la place même où est Ibouba.
C'est vrai qu'il
il a dit à cette place-là, le 14 avril 2017, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer qu'il y ait la paix et la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Je condamnerai les politiques de colonisation et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël. Ce n'est pas Rayed Chaibi qui le dit, c'est le président Emmanuel Macron qui le dit le 14 avril 2017. 6 ans plus tard,
je lui lance un appel,
c'est devant vous, exactement. Eh bien, monsieur le président de la République, mettez à exécution ce que vous avez dit ici même en 2017. Et surtout, méditez le message du président Chirac qui avait dit en octobre de 1996, il avait dit, et je demande au président Macron de méditer ce message du président Chirac, tant que les Palestiniens ne peuvent pas gérer leurs propres affaires, tant qu'ils n'ont pas droit à la dignité, comme tous les autres peuples, les frustrations et les ressentiments persisteront, et nous connaissons tous les fruits amers qu'ils produisent, tel est le prix de la sécurité. Monsieur le président de la République, méditez le message de votre prédécesseur.
Vous êtes venu, c'est rare de vous connaître comme ça.
Si je peux me permettre, Macron faisait déjà du LFisme.
Ah oui.
Il faisait déjà de la chasse aux électeurs musulmans par ce type de
dans
propos.
Dans une radio comme celle-là.
Aujourd'hui, moi, je voudrais rappeler, je ne suis pas historien, je ne suis pas un spécialiste, mais il faut simplement regarder un petit peu les cours
la vidéo
qu'on a eu concernant la situation. Sans aller dans le 4... Sans aller dans une optique d'horreur et d'obscurantisme total, je rappellerai qu'il n'y aura pas de solution tout simplement. Pourquoi ? Parce que les États qui aujourd'hui font semblant de parler de paix sont les États qui ont aidé à la création d'Israël.
Bien sûr.
Et qui financent Israël depuis le début jusqu'à maintenant. Par de l'argent, par de la politique et de la stratégie internationale. Donc il n'y aura pas de solution. La seule solution, s'il y en a une, c'est celle des peuples juifs, chrétiens, catholiques et autres qui vivent en Palestine depuis toujours et qui veulent vivre en paix. Ça ne viendra pas des politiques et des gouvernements, c'est impossible. Seuls les peuples qui pourront se débarrasser du sionisme, parce que le sionisme est une idéologie extrémiste juive, il faut le dire. Tous les juifs ne sont pas des extrémistes, comme tous les musulmans ne sont pas des terroristes ou des islamistes. Donc à un moment, la seule solution viendra de la part des peuples, tout simplement.
Je suis obligé de lancer la pause, s'il vous plaît. Je vais lancer la pause maintenant, et on va se retrouver tout de suite après. Tiens, Faudil va essayer de nous retrouver l'extrait, ici même, l'interview en 2017.
Ah bah, faut la publier.
Effectivement, non, mais il paraît qu'elle tourne, elle tourne pas mal.
Il y a la vidéo. Ça faut.
En boucle. Allez, on marque la pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
On est en direct, chers amis auditeurs. 19h40, les informés avec Kamal Abine, avec Rayed Chaibi, avec Ibouba, mais également Nadir Kaya. On a retrouvé cet extrait, qui date de 2017. Effectivement, on avait reçu Emmanuel Macron, candidat à cette époque, aujourd'hui président de la République. Écoutez.
J'œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et je ne céderai rien sur ce sujet. Et donc, je condamnerai les politiques de colonisation qui ne sont pas conformes aux accords de 1992. Et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël et des choix qui sont faits par M. Netanyahou. Je l'ai dit et je le répète. Je mettrai toute mon énergie diplomatique pour qu'on puisse aller vers une désescalade sur place et pour qu'on puisse vraiment construire une cohabitation, un vrai traité de paix et une reconnaissance.
Ça se passait ici, dans ce studio, dans c'est les CQFD. Informés. Exactement. CQFD. Ça se passait en 2017. CQFD. On l'avait reçu. C'était en direct.
Exactement.
C'est pour ça que vous aviez passé ce coup de gueule.
Bien sûr. Ouais. C'est CQFD. Je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est le président de la République, l'actuel président de la République, qui l'a dit à l'époque où il était encore
il
candidat.
Mémoire,
donc, si effectivement il veut mettre toute une action diplomatique, eh bien, qu'il le fasse.
Trop de mémoire.
Allez, tiens, on va accueillir Farid du 92. Bonsoir, Farid.
Bonsoir, bonsoir, monsieur Adil Farkan.
Bonsoir, vous nous appelez
monsieur Farkan, vous allez bien?
Très bien, vous nous appelez de quelle ville?
Moi, ça va doucement avec tout ce qui se passe, monsieur Farkan.
Alors, dites-nous tout, pourquoi?
Je vous appelle du 92, et je vais vous le dire, bon, de Dagnères-sur-Seine, allez, on va
allez.
Dire.
Allez, eh ben tiens, c'est Nadir Kaya.
Alors, monsieur Farkan, tout d'abord, comme d'habitude, je vous remercie infiniment de nous laisser la libre expression à tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM.
Comme ça, on ne dira pas que voilà, je censure. Hein. Voilà.
Ah non,
c'est
non,
bien,
non, vous ne censurez
c'est
pas.
C'est bien
du
de
tout.
Le dire. Bon, allez, on vous écoute. Quel est le sujet?
Je rappelle encore une fois. Monsieur Farkan, je vais mettre un instant ma fierté de musulman français d'origine algérienne cabine de côté, juste un petit moment.
Oui.
Pour vous demander expressément, je vous en prie, monsieur Farkan, de grâce. Je vais m'exprimer, je me suis déjà exprimé. Mardi dernier, je vais aller vite parce que d'autres auditeurs et auditrices voudraient peut-être intervenir dans votre émission sur Beurre FM. Je me suis exprimé sur le conflit israélo-palestinien. Oui. Le énième conflit israélo-palestinien. Oui. Avec une solution à deux États, pour l'État d'Israël, la paix et la sécurité pour l'État d'Israël, et la paix et la sécurité pour l'État de Palestine, avec un État souverain, libre et indépendant. Et je condamne tous les extrémistes d'un bord et de l'autre. Je suis pour la paix, encore une fois, pour la vie, et je ne suis pas pour la mort, pour la guerre et pour la violence des deux côtés, de qui soit, du Hamas et de M. Benjamin Netanyahu, qui est un fasciste. Je le répète, je pèse mes mots. C'est un fasciste, et il est de l'extrême droite israélienne. Et il ne veut faire aucun effort pour la paix.
Farid.
Ça fait une chose.
Oui.
Et
Farid.
Vous ne m'avez pas laissé... s'il vous plaît, monsieur De Grasse, vous n'avez pas laissé m'exprimer sur si je puis me permettre, monsieur Farkan, De Grasse, je vous en prie, juste un petit mot seulement. Je
vais alors, un tout petit mot, vous avez 5 secondes.
D'accord, sur les manifs, j'ai une pensée hyper affectueuse, moi, français, musulman, français, d'origine algérienne cabine, et les français pacifistes, j'en suis sûr, tous les français de toutes origines, pacifistes, pour les massacres génocidaires du 17 octobre 61,
vous
le
avez...
massacre sanglant et génocidaire et sanguinaire du 17 octobre 61,
vous avez...
200 Algériens ont trouvé la mort, 100 disparus, et plusieurs centaines de blessés ont été jetés à la Seine.
Vous avez raison de le rappeler, merci Farid. Et vous avez raison de le rappeler Farid, on a fait une émission spéciale lundi dernier où justement on a consacré une grande partie dans les informés concernant ce fameux 17 octobre. Il faut s'en souvenir et on est là aussi pour le rappeler. Je vais accueillir d'autres auditeurs, vous savez. Vitry, Farid, toujours Farid, hein. Farid, ils sont en force ce soir. Farid de Vitry, bonsoir Farid. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute, mon cher Farid. Très bref, très clair, très précis, parce que on est pris par le temps et malheureusement, on arrive au terme de cette émission.
D'accord. Bon, alors, je dis juste que je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui vient de parler.
Oui.
Je voulais parler sur le conflit palestinien.
Oui, dites-nous.
Bon, je ne suis pas d'accord quand il dit que il est contre les extrêmes des deux côtés. Pour moi, il n'y a pas d'extrême du côté de la Palestine. Parce que s'il y a des extrêmes du côté de la Palestine, c'est qu'on m'a menti quand j'étais à l'école.
Oui.
Parce qu'on m'a appris à l'école, j'ai appris à l'école la guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Et on m'a dit qu'à l'école, ma professeure d'histoire m'a appris que les résistants faisaient sauter des trains et commettaient des attentats pour libérer la France occupée des Allemands.
Oui.
Alors... Je suis désolé, le Hamas, ils sont dans leur rôle. Mmh. Ils veulent libérer le pays, leur pays. Alors, tous les moyens sont bons. C'est désolant, mais c'est comme ça. Mmh. Parce que quand quelqu'un vient chez toi, si tu
Alors attendez, on va reprendre ce que vous dites effectivement, parce que d'abord, on va pas s'amuser à comparer les différentes Farid. On a entendu Farid, attendez, juste Farid. Je vais devoir vous interrompre parce que d'abord on est pris par le temps et vous savez dans le coin neuf. Non, c'est pas ça, c'est parce que je suis pris. Mais on a, j'ai compris l'esprit. Je vous ai laissé vous exprimer Farid et je vais. Il y a d'ailleurs, faut pas s'amuser à comparer les événements. Mais il y a Nadir Kaya qui veut vous répondre. Merci de votre intervention, Farid. Nadir Kaya, pourquoi vous n'êtes pas d'accord ?
J'ai compris aussi ce qu'il voulait dire sur le fait que la résistance est la résistance. Il y a eu des actes de terrorisme de la part de certaines résistances pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte par rapport au Hamas. Ce sont des musulmans, et moi-même en tant que musulman, on ne peut pas accepter, si, je dis bien si, parce que je n'ai pas eu encore d'éléments de la part de journalistes français qui ont pu confirmer les dires de l'armée israélienne sur les morts et la façon dont certains sont morts. Voilà. Bien évidemment, et en tant qu'Algérien aussi, par rapport aux années noires, par rapport à la colonisation...
Mais vous avez eu l'occasion de condamner ce qui s'est passé...
On condamne tout acte terroriste. Un musulman connaissant sa religion ne peut pas accepter ça, même de la part d'un musulman, et encore plus, on doit le dire et le rappeler. Il y a des règles dans l'art de la guerre, même face à quelqu'un de plus fort, à un oppresseur, on doit se battre. Bien sûr que résister, c'est tout à fait légitime. Preuve en est au regard international, l'ONU accepte la résistance palestinienne. Cependant, il y a des façons de résister. Quand on s'en prend à des civils, c'est pas acceptable en tant que musulman. Il y a une façon de résister, donc
et
là aussi, il faut le rappeler.
C'est un acte barbare et terroriste, effectivement. Gamal Abina, d'une seconde, s'il vous plaît.
Oui, rapidement, ouais. L'histoire du terrorisme, ça a toujours existé. Bon, en France, quand on tuait des Allemands, c'était pas leur famille, parce qu'elles étaient en Allemagne, donc c'est logique. Mais pour être plus sérieux, non. Baruch Goldstein, qui a assassiné des Palestiniens en leur tirant dans le dos pendant la prière, a tué 29 Palestiniens, 150 blessés. Ça, c'est aussi du terrorisme et c'est condamnable. Faut condamner tous les actes qui tuent des civils inutilement.
17h48 précisément, et c'est le Quad 9. Tout de suite, direction, comme chaque jeudi, vous le savez, eh bien c'est Pascal Boniface, le patron de fondateur de l'IRIS, mais également géopolitologue. C'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Et le Quad 9, donc je l'accueille. Pascal Boniface, bonjour, bonsoir.
Bonjour Adil.
Ravi de vous retrouver, mon cher Pascal Boniface. C'est parti pour votre billet d'humeur, comme chaque jeudi soir, et je dois le dire, ce soir, vous voulez aborder la question, évidemment, à la fois Gazaoui et ukrainienne.
Oui, effectivement, vous avez vu que les puissances occidentales, notamment les États-Unis, après avoir affirmé, après les attentats du 7 octobre, que Israël avait le droit de se défendre et qu'il y avait un soutien inconditionnel, on a vu que même le président Biden, qui donc affirme son soutien inconditionnel à Israël, est venu en Israël pour essayer de, un peu de calmer le jeu quand même, pour dire attention, l'offensive terrestre, nous avons fait une erreur, le 11 septembre, on a surréagi, on a payé le prix très fort, il a un peu insisté pour ouvrir un couloir humanitaire au sud, à la frontière égyptienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pays occidentaux se rendent compte qu'ils sont pris à leur propre piège de leur attitude par rapport à la guerre en Ukraine. Pendant la guerre en Ukraine, que disent les pays occidentaux ? C'est que la conquête de territoire par la force, c'est interdit, c'est illégal, c'est même inacceptable. Mais là, en fait, on sait très bien que depuis la résolution 242 et en fait depuis 1967, Israël occupe des territoires qu'ils ont conquis par la force et donc qui ne se retirent pas. Donc première contradiction. Et puis on a beaucoup critiqué les bombardements de populations civiles en Ukraine. Et s'il y a des bombardements de populations civiles à Gaza et qu'on ne dit rien, là effectivement on voit que dans le grand combat pour la conquête du cœur et des esprits, eh bien ce qui passait sous silence, qui était accepté auparavant, là ne passe plus, et ce critère du deux poids deux mesures, vous critiquez vos ennemis et lorsque vos alliés font des choses qui ne sont pas acceptables, bien vous laissez faire, cela donc porte atteinte au crédit moral des pays occidentaux. Et quand les pays occidentaux n'arrêtent pas un peu de faire la morale, de dire qu'ils ont des valeurs universelles aux autres pays, cela vient miner leur crédibilité, d'où effectivement, d'où l'attitude de Biden, d'où sa tentative de montrer qu'il faut un peu être modéré, parce qu'on l'a bien vu que dans tous les pays arabes et musulmans et dans d'autres pays du monde, eh bien, ce sont les ambassades occidentales qui sont visées dans les manifestations, parce que les pays occidentaux sont liés à Israël et que quelque part, on leur en veut pour ce lien avec Israël si Israël bombarde trop fortement les populations civiles et fait des victimes.
Merci mon cher Pascal Boniface, bravo pour ce billet d'humeur et puis pour votre regard et ce décryptage géopolitique. Merci, à jeudi prochain sans faute.
À jeudi prochain.
Portez-vous bien, C'était le Quoi de Neuf, 19h50, messieurs. Je voudrais juste, vous savez quoi, faire un tour de table concernant. En ce moment même, sur BFM TV, il y a Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui répond donc à une interview exclusive. Je vous le rappelle d'ailleurs, Gérard Darmanin, qui viendra très vite ici, là, bientôt, chez nous, dans Les Informés, sur BFM, pour une interview inédite et exclusive.
On l'attend alors, de pied ferme.
attention à vos propos. Hein. Gérard Darmanin lit Karim Benzema aux frères musulmans, Gamal Abina.
J'ai eu l'occasion de le dire chez Mordini.
Et le Ballon d'Or envisage de porter plainte.
Oui, mais ils ont raison. J'ai eu l'occasion de dire qu'il disait n'importe quoi. Je ne croyais pas ce qu'il disait parce qu'il mélange tout. Et j'expliquais pourquoi. Parce qu'un homme avec une carrière aussi extraordinaire que celle de Benzema ne va certainement pas se compromettre, soi-disant, chez les frères musulmans, alors qu'il est parti en Arabie, je le rappelle. Les frères musulmans, ce n'est pas l'Arabie, c'est les ennemis. Hein, faut le rappeler. Je ne vais pas rentrer dans un cours trop long. Il n'en demeure pas moins que M. Darmanin a montré ses limites par rapport à l'affaire Ekoussen, qu'il a montré ses limites par rapport aux interdictions des manifestations où il ne connaît pas la loi française.
Ekoussen, c'est Hassan Ekoussen.
Hassan Ekoussen, oui, tout à fait, qu'il a voulu attraper. Bref. Et les manifestations, le Conseil d'État a donné raison aux manifestants, c'est un droit constitutionnel. Et maintenant, il a lancé à l'invective comme ça, parce qu'il était peut-être dans un moment de folie, de dire c'est un frère musulman. D'abord, il n'y a pas de frère musulman en France. C'est une organisation UOIF qui a quasiment disparu.
Mais ils sont très peu nombreux.
Très peu
rien
nombreux.
À voir avec la tendance wahhabite.
C'est égyptien.
Tout à fait.
Ce qui a posé problème en France, c'est pas les frères musulmans, si vous le rappelez, c'est le wahhabisme. Sauf qu'ils confondent le takfirisme, qui est frère musulman, et ce qu'on appelle le wahhabisme avec les mouvements armés. Voilà la problématique qui se pose. On a un ministre de l'Intérieur qui, pour moi, je suis désolé de le dire, est médiocre.
Rayed Chaïbi, vraiment, soyez court, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je rende l'antenne, s'il vous plaît.
C'est absolument délirant.
J'ai 1 minute 30.
C'est absolument délirant qu'on ait ce débat. J'appelle vraiment le ministre de l'Intérieur en fait à se concentrer aux véritables personnes qui posent un danger, qui sont vraiment des fichiers, qui posent vraiment un danger en France. Qu'est-ce qu'on reproche? Enfin, la seule attaque que je connais de Benzema, c'est une attaque contre le gardien de but adverse, les défenses adverses et un ballon. Mais faut arrêter les délires.
Il est chaud ce
soir.
Non,
mais c'est complètement délirant. Non, mais attendez. Oh, et en plus de ça, et en plus de ça, le ministère de l'Intérieur dit il y a des indices qui laissent à penser que.
Benzema portait plainte. Hein.
Le réalisateur me dit il faut que je rentre l'antenne.
Moi, je voudrais juste dire c'est honteux. C'est honteux, vraiment, c'est honteux. Benzema, je crois que c'est pas ce qu'il faut le payer. La France lui doit beaucoup et il faut le dire merci, c'est juste ça.
Mais dire qu'ailleurs.
Darmanin, n'oublions pas, est dans une logique politique. Il envisage de se présenter aux futures élections présidentielles. Aujourd'hui, il surfe sur l'opinion publique et contre les musulmans. Benzema a eu l'audace d'être un musulman et de s'affirmer, donc de défendre la cause palestinienne. Donc il le paye aujourd'hui. Monsieur Darmanin est en campagne et il sait que l'opinion publique est contre les musulmans.
Merci,
donc
monsieur.
Il surfe là-dessus aussi
merci,
simplement
monsieur.
Que ça.
Merci à Nadir Kaya, merci à Ibouba, merci à Rayed Chaïbi qui était, je dois le dire, aujourd'hui.
Monsieur Benzema a porté plainte, faut le rappeler.
Il a porté plainte.
Avec les moyens qu'il a.
Gamal Abina, merci à la réalisation, c'était Fodil. Tout de suite, Time Sport, 20h-21h, avec Bilal Lenman. Vanessa, rendez-vous à ne pas manquer. Ça se passe de 21h jusqu'à 23h. Quant à moi, demain, avec d'autres sujets, d'autres commentaires, d'autres décryptages. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait?
On ne lâche rien.
À demain, ciao.
Retrouvez Les Informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.